sur 103,5.
Chaque année, le monde célèbre le 10 octobre, la journée mondiale de la prévention des catastrophes naturelles. La République démocratique du Congo a aussi connu son lot des catastrophes naturelles, à l'instar du volcan de Nyiragongo à Goma, les inondations de Bukama au Katanga et le Lufutoto au Bas-Congo, sans oublier la série des éboulements qui continue à faire des dizaines de morts chaque semaine dans les carrières minières de mines au Katanga et dans les Kasaï. Cette année, le thème choisi par l'ONU est la prévention commence avec l'information. Alors nous nous posons sans doute la question de savoir comment les gouvernements congolais comptent s'impliquer dans cette démarche. Nathalie Mouteba, vous êtes penchée sur la question. D'abord, d'entrée de jeu, qu'est-ce qu'une catastrophe naturelle?
Eh bien, hier, selon le site Wikipédia que nous avons consulté, une catastrophe est un événement brutal d'origine naturelle ou humaine ayant généralement la mort et la destruction à grande échelle pour conséquence. Évidemment, bien sûr, ce genre d'événement ne manque pas d'affecter les populations qui en sont victimes. J'aimerais préciser que ces catastrophes naturelles concernent les événements climatiques, sismiques ou astronomiques majeurs. Les autres catastrophes sont plus liées aux activités humaines et celles-ci, j'aimerais le dire, sont parfois bien plus dévastatrices.
La République démocratique du Congo a connu aussi des catastrophes de ce genre.
Oh oui, plusieurs, peut-être pas aussi à grande échelle comme le tsunami en Asie, mais des catastrophes tout aussi fortes qui ont entraîné la mort de plusieurs compatriotes congolais.
Est-ce qu'on peut avoir un pays d'histoire, ça paraît un exemple?
Eh ben, je vais essayer d'aller un peu rapidement. Eh bien, au Katanga, par exemple, il y a eu des inondations, plus précisément à Bukama. Nous comptons même pas tous les éboulements, vous l'avez dit, et les glissements des terrains qui se font presque chaque semaine, je le dis bien, dans des mines qui provoquent la mort des centaines des mineurs. Parlons des glissements de terrain, eh bien, par exemple, en Bujmai, dans le Kasaï oriental, plus précisément dans le quartier Mikela, il y a eu glissement de terrain pas plus tard qu'il y a 2-3 semaines, bien qu'on n'ait pas eu à déplorer des pertes humaines, mais plusieurs familles se sont retrouvées sans habitation. À l'équateur, à Yakoma, il y a eu des feux de brousse et autres tempêtes, sans parler de la récente peste porcine, quoique cela ne soit pas encore classé dans la lignée des catastrophes naturelles qui ravagent dans la lignée des catastrophes naturelles, mais au moins, cette peste est en train de ravager plusieurs villages du coin.
Oui, alors, permettez-moi, Nathalie, de vous interrompre un moment, parce que là, la liste n'est pas exhaustive, mais peut-on considérer une épidémie comme une catastrophe naturelle?
Oui, nous la classerons en ce moment-là dans l'ordre de catastrophe moderne due au mode de production. Alors, pour en revenir à notre énumération, eh bien, à Kinshasa proprement dite, nous avons eu des débordements du fleuve qui atteint les populations riveraines telles que à Kingabwa et à les rivières qui sillonnent la capitale qui, à chaque saison de pluie, ne manquent pas de sortir de leur lit et provoquent ainsi des dégâts considérables. Si nous remontons un peu plus loin en 1990, vous vous souviendrez, il y a eu des sinistrés de la rivière de Makelele. Plusieurs familles de communes de Bandalungwa et de Kintambo ont pleuré leurs membres de famille. Certains ont été engloutis par la boue et d'autres emportés par les torrents. Dans le Bas-Congo, nous avons Lufutoto où la pluie a également causé d'énormes dégâts matériels. À Mwanda, par contre, c'est la nature qui joue au destructeur. L'océan détruit petit à petit une ancienne cité appelée Nsiamfumo. Récemment encore, vous vous souviendrez, J.R. Mungembo Nicolas Ngaka, Okapi Action en a parlé. Écoutez plutôt ce témoignage.
J'habitais Nsiamfumo de 1980 à 1995. Donc, quand je suis arrivé, l'océan se trouvait à près plus de 20 mètres de l'endroit où il se trouve actuellement. Et pendant tout ce temps, chaque année, il y a au moins 2 ou 3 mètres qui sont engloutis par l'océan. Au point que, par exemple, à Nsiamfumo, en Tadila particulièrement, il y a beaucoup de résidences, plus de 10 qui sont déjà engloutis, qui se trouvaient à près de 30 mètres de l'océan. Mais actuellement, toutes ces résidences sont déjà engloutis par l'océan et il y a aussi des arbres.
J'ai vécu en Nsiamfumo depuis l'année 80. Après 5 ans, la maison où on était, l'océan a tout ravagé, c'est déjà perdu. Et puis ça revient encore en fait en 25 mètres encore de la route, de la grande route encore. Donc vraiment, s'il n'y a pas une défense parmi les autorités de Mwanda, alors Nsiamfumo ça va disparaître par l'océan.
Alors, la cité d'Ensafumo est quand même une des cités touristiques du pays. Mais malheureusement, avec les temps, il finira par disparaître si on y prend garde. La nature voulant récupérer ses droits, Nathalie.
Oui, parlant de la nature, à Goma, en janvier 2002, le 17 janvier plus précisément, la ville a sombré dans l'horreur quand elle a vu la coulée de lave du volcan Nyiragongo déferler sur la ville. La lave a traversé la ville pour aller échouer dans le lac Kivu. Suivez le témoignage du colonel Flamand Baliwa. Il a vécu le drame deux fois dans sa vie, l'éruption de 1977 et aussi celui de 2002. Il est au micro de Sylvestre Kilolo.
Bon, tout était parti de rumeurs et de spéculations. Et après, on a vu des hélicoptères de la MONUC, je me rappelle bien, c'était un jeudi, commencer à sillonner un peu le volcan et appuyer de certains éléments de l'OVG venu de Bukavu. Ils ont tenté un peu de l'essayer, mais tout était tourné au vinaigre, je m'excuse. C'était maintenant dans les après-midi, quand il y a eu, sous forme de, pardon, d'abcès, qui a eu lieu au niveau du, en dessous là de Mouamila, comme on le dit, à Nyiragongo, oui. Et cet abcès-là qui a fait déborder le vase au niveau de l'aéroport. Et petit à petit, ça prenait une allure incommensurable, quoi. Et vous ne pouvez pas vous rendre compte. Non, moi-même, je l'ai perdu. À mon âge, un jeune officier là, peur de tout un chantier. Mais qu'est-ce que tu veux? C'est Dieu qui donne, c'est Dieu qui récupère. Mais de toute façon, je dois vous dire que c'est catastrophique. Et les gens ont de très mauvais souvenirs. Parce qu'on a découvert, on a décompté de malades mentaux. Il y a des gens qui ont passé de mois, si pas des années, au niveau de centre mental, là, je ne sais pas comment on appelle, de Keshero. Et on a vu des gens, le matin, ils étaient riches, et vers 16h, 17h, ils étaient devenus pauvres. Et le matin, quand on a fui vers Gisenyi, on voyait les gens, on ne savait pas si j'avais des cheveux blancs. Et dans moins de 24 heures, c'était les cheveux blancs qui apparaissaient, c'était la barbe blanche, et on a dit, bon, la vie de Goma, en fait, à cette époque, je me rappelle, M. Kilolo, c'était resté même sans autorité. Tout le monde a appris. C'était vraiment une catastrophe au vrai sens. Et aujourd'hui, il faudra le dire, Goma est devenu un grand chantier. Évidemment, on est en train de moderniser la vie de Goma. Et avec ces nouvelles constructions, c'est déjà un signe d'encouragement, un signe de motivation en termes de tendance à mieux faire pour que les gens puissent construire.
Voilà, l'éruption du Nyiragongo a effectivement fait d'énormes dégâts, comme on vient de suivre avec Sylvestre Kilolo. Plusieurs personnes en garde des stigmates, Nathalie, mais actuellement, y a-t-il une politique mise en place pour éviter que cette catastrophe ne se reproduise?
Eh bien, gère la nature à ses caprices, car en fait, un volcan qui entre en éruption et qui décide de déverser le trou plein de sa lave, personne ne peut le prévoir. Mais l'homme est malin. Ainsi, l'Observatoire volcanologique de Goma a mis tout en œuvre pour que ce genre de catastrophe ne se répète pas. M. Luca Ayumbo, le directeur de l'OVG, nous donne ici quelques illustrations.
Le volcan est actif présentement. Il y a une lueur abondante qui est observée au sommet du cratère la nuit. Et la journée, on voit un panache important de gaz qui sort du volcan se dirigeant vers l'ouest. Pour l'instant, l'Observatoire volcanique de Goma est équipé pour pouvoir déceler certaines anomalies dans cette région volcanique et ça vaut connaître de quel volcan il s'agit puisque nous avons des volcans actifs dans la région de Nyiragongo et de Nyiragongo. Alors, nous ici, c'est la surveillance de Nyiragongo qui est un peu en vogue puisque tout l'équipement est placé autour de ce volcan. Jusqu'à présent, nous n'avons pas encore décelé de signes précurseurs, mais le volcan est actif, ce qui est vrai est qu'il y aura une autre éruption. C'est pourtant, nous ne savons pas encore, puisque les signes précurseurs ne sont pas encore décelés. Nous avons aussi un service là, intitulé Centre d'information sur le volcan. Et chaque semaine, il y a des rapports que nous envoyons aux autorités dans les différentes radios de Goma et qui diffusent ces rapports. Bon, notre institution, c'est une institution de l'État. C'est une institution de l'État, l'Observatoire est une institution de l'État. je crois que le gouvernement s'implique, puis c'est quand même le personnel essayé d'abord.
Mm-hmm.
Et tout ce que nous faisons pour les rapports, l'institution possède aussi des rapports qui l'acheminent vers le gouvernement.
Voilà, Nathalie, on va évoluer. Est-ce qu'on peut dire que l'exploitation abusive de l'environnement par l'homme serait également à l'origine des catastrophes naturelles de tout genre qui surviennent dans le monde en général et en RDC en particulier?
Eh bien, JR, qu'est-ce qu'on pourrait dire du déluge? À l'époque, l'homme n'avait commis comme crime que celui de mal se conduire, n'est-ce pas? Mais il est vrai que si nous tenons compte de différentes origines de catastrophes, telles qu'on l'a abordé en début de notre entretien, il y a celles qui sont causées par les activités humaines. Alors là, oui, on peut dire que les activités de l'homme, l'exploitation de l'environnement par l'homme peut effectivement être à l'origine de catastrophes. On écoute le directeur général du programme national de l'assainissement PNA, M. Ngoimbeli.
Dans notre pays, comme vous le savez, nous sommes absolument exposés à toutes ces catastrophes en raison du comportement nécessairement de la population. Vous avez des villes comme Bukavu qui a été boisée complètement, mais qui est aujourd'hui nue, déboisée totalement, où il y a des érosions vraiment très graves. Et ça, c'est le comportement des personnes. La prévention des catastrophes, c'est lié à la nature de chaque catastrophe. Quand nous parlons, par exemple, des inondations à Kinshasa, il y en a eu. C'était dû à quoi? Au comportement privé de la population qui construit même dans les zones non édificantes, comme on dit, c'est-à-dire là où on ne peut pas construire. Et ça crée l'érosion, ça crée le départ des terres qui vont remplir les nids des cours d'eau. Et cela fait que quand il y a une grosse pluie, évidemment, tout est inondé. Donc c'est le comportement de la population en prévenant. Ce comportement de la population à construire là où il faut construire et laisser les zones inondables tranquilles, ça fait déjà une mesure de précaution. Voilà. Ça, on peut prévenir toutes les catastrophes. Si on le veut bien, il faut les planifier. Et ce n'est pas un travail d'un jour. C'est un travail d'un comportement permanent de la population.
Merci beaucoup, Monsieur le DG.
Voilà, alors Nathalie, on va donner la parole dans quelques instants à notre invité, l'ingénieur Kayembe Vintala, directeur des établissements humains et protection de l'environnement au ministère de l'Environnement. Une fois encore, merci et à la prochaine, Nathalie.
Merci, JR.
Radio Okapi, la fréquence de la paix.
Okapi.
Avec le soutien des coopérations suisses, britanniques, américaines et néerlandaises.
Okapi.
Radio Okapi, le souffle du Congo.
Vous poserez sans doute la question, pourquoi nous parlons aujourd'hui de catastrophes naturelles? C'est parce que le monde entier célèbre aujourd'hui la journée mondiale de la prévention des catastrophes naturelles. Vous avez suivi le point que nous venons de faire avec notre consoeur Nathalie Mouteba. Tout de suite, accordons la parole à l'ingénieur Kayembe Vitala, directeur des établissements humains et protection de l'environnement au ministère de l'Environnement. Monsieur le directeur, vous êtes en ligne? Bonjour.
Oui, bonjour, monsieur les journalistes.
Alors,
merci beaucoup. Je commence par corriger. Mon nom, c'est Kayembe Vitanta.
Vintanta. Voilà, merci. Et puis, bon, voilà. Vous avez suivi le point que venait de nous faire notre consoeur. Est-ce que vous avez un commentaire par rapport à cette intervention?
Le commentaire va dans le même sens que beaucoup d'autres qui ont parlé avant moi. En République démocratique du Congo, les problèmes des catastrophes naturelles sont assez urgents et dus, si vous voulez, à une certaine anarchie dans laquelle nous vivons pour le moment. Et dans l'ordre utile, comme nous avons dit là, nous nous attendons à ce que, durant le mois de janvier, décembre-janvier jusqu'au mois d'avril, on s'attend à des inondations. Donc, des grandes inondations, parce que vous entendez parler de ce qu'il y a déjà de graves inondations en Ouganda et au Kenya. Donc, c'est près de l'équateur, dans l'hémisphère nord. Et nous voyons que la même situation va se présenter auprès de l'équateur, dans l'hémisphère sud. Ce que nous nous attendons à ce que cette année, on ait des très grandes pluies dues au changement climatique et on s'attend à ce qu'il y ait des inondations, le problème d'inondation à Kisangani, à Manaka et ici à Kisasa. Alors pour cela, on se prépare, on essaie de faire.
Oui, est-ce qu'on peut prévenir des catastrophes naturelles?
Ouais. Pardon?
Est-ce que le monde est capable de prévenir les catastrophes naturelles?
Oui, toutes les catastrophes, si vous voulez, tout ce qu'il y a comme catastrophes naturelles peuvent être prévenues et même l'homme orienté pour atténuer l'impact, surtout l'impact sur la pauvreté et l'impact sur la santé publique. Dans ce sens ici, imaginez-vous, quand on s'attend toujours à des grandes pluies, les grandes pluies ont toujours existé, mais quand on prend des précautions pour dire que les pluies vont tomber, il y aurait les lits naturels de gonflement des rivières et des cours d'eau, si on en tient compte, si on les garde, si on les drague. Je vous donne un exemple à l'heure actuelle. Allez sur le pôle Malembo, la rive gauche, entre le beach Ngobila et en montant, le beach Ngobila et l'embouchure de la rivière Ndjiri. C'est plein d'épaves, de bateaux et de barges. Et ces bateaux et ces épaves de bateaux et de barges freinent l'écoulement de l'eau et il y a maintenant un banc de sable qui s'établit devant et après il y a les plantes qui vont pousser le Congo et Africa et consort. Ainsi, si on ne libère pas ces terres d'écoulement, si vous voulez, ce lieu naturel du fleuve Congo, il va gonfler et il va dépasser. Et on peut avoir de grandes inondations, on peut penser à ce que des quartiers tels que Barumbu vont avoir des problèmes. D'où il faut travailler maintenant.
Oui, mais il faut travailler. Monsieur le directeur, il faut travailler maintenant. Est-ce que vous avez déjà eu à faire des propositions concrètes pour que qu'on puisse évacuer ou déguerpir toutes ces personnes qui occupent ou qui ont élu domicile à cet endroit?
Oui, c'est déjà fait. Mon ministre avait programmé une visite ensemble avec le gouverneur, mais les mesures sont déjà prises. Bientôt, je crois que le NATRA va s'occuper va dégager ces endroits.
Oui,
il y a aussi des catastrophes naturelles dues aux épidémiologies qui affectent l'homme. Mais ça, c'est un problème de santé publique. Vous connaissez très bien le problème qu'il y a eu souvent cette année à Malembankoulou, dû au choléra. Et vous savez que pour le moment, nous avons des cas d'Ebola dans les deux Kassai. Eh bien, tout ça, on peut prévoir cela à temps. Nous avons aussi le problème d'érosion. Et le problème d'érosion, allez voir un peu comment il est construit le quartier 555 à Kindele. Et on a conçu comme si on était à Matadi.
Oui, monsieur le directeur, on peut prévenir les érosions, on peut prévenir les inondations, mais qu'en est-il des volcans, par exemple?
Les
éruptions volcaniques.
Je ne sais pas si vous avez déjà été
à Goma.
À Goma.
Aussi.
Il y a des méthodes naturelles de détecter l'arrivée de lave. Qu'est-ce qui se passe? Les gens qui habitent dans les environs, ils savent, parce que nous avons des animaux tels que les chats, qu'on appelle parfois ici Kondoko, puisqu'on les mange. Dès que les volcans se mettent à bouger, les chats sont alertés. Il y a des oiseaux qui sont alertés. Et les gens qui connaissent, ils voient déjà le comportement des animaux et ils fuient. Mais il y a aussi tous ceux qui s'occupent de ces services. Quand vous arrivez à Goma, vous verrez, on communique à la population que le volcan est à tel niveau. Il y a à peu près 4 niveaux. Le jaune, le vert, le bleu et le rouge. Et chaque semaine, on monte ou on descend, on indique à la population. La population est fortement informée. Et dès que nous tendons vers l'éruption, et on demande à la population de dégager.
Oui, mais ça arrive de quelle méthode qu'on détecte réellement l'éruption volcanique? Est-ce qu'il y a des méthodes modernes?
Oui, il y a des méthodes, mais justement, des méthodes utilisées pour le moment, ce sont des méthodes assez modernes. Les sismologies permettent à détecter le plus près, et surtout les Japonais sont très forts dans ce domaine.
Oui, alors parlons un peu de la situation de la RDC en général. Comment voyez-vous l'avenir de la RDC quant aux catastrophes naturelles? Est-ce qu'il faudrait parer au plus pressé ou il faut encore prendre son temps? Je ne sais pas, quelle est votre attitude par rapport à cela?
Nous avons, à l'heure actuelle, un homme assez consciencieux à la tête du ministère. Il a pris à cœur tous ces problèmes. Il a écrit à ses différents collègues. Et il met tous les moyens. Il est très sensible à ces situations. Je vous ai dit déjà que pour dégager tous les endroits occupés qui peuvent être la cause de catastrophes naturelles, ou contre la pluie, ou contre l'érosion et tout un tas de ça, il a déjà écrit. Et je crois que si nous continuons sur le long, là, ça va aller.
Oui, Monsieur Ilanga, nous rappelons que vous êtes le conseiller en charge des forêts au ministère de l'Environnement. Alors, nous parlons aujourd'hui des catastrophes naturelles parce que le monde célèbre justement cette journée, le 10 octobre, la journée mondiale de la prévention des catastrophes naturelles. Alors, nous allons savoir, parce que vous avez cité tout à l'heure la ville de Kisangani, la ville de Mbandaka et même la ville de Kinshasa, la capitale de la RDC, qui sont des villes qui peuvent avoir, justement, qui peuvent être confrontées à ces problèmes de catastrophes naturelles dans les jours à venir. Nous savons que, par exemple, pour la ville de Kinshasa, il ne pleut plus depuis quelques temps, alors que nous avons déjà démarré
la
saison des pluies. Est-ce qu'on peut craindre qu'à l'arrivée des pluies, qu'il y ait des inondations dans certains quartiers de la capitale?
Oui, on l'a dit, et on est, je vous ai dit que le ministre Bida Sotembe s'en occupe de tout cœur. Il a déjà même écrit au gouverneur de la ville pour cela.
Oui, mais
nous croyons qu'il va y avoir, avec des changements climatiques, nous aurons des pluies qui vont facilement déposer de grandes quantités, une bonne hauteur de chaque fois qu'il va pleuvoir. Et alors, nous pensons que les communes telles que Tchopoa, Kisangani et consorts seront inondées. Nous pensons que la ville de Mbandaka sera toujours.
On aimerait cibler un peu les coins. Où est-ce qu'on peut craindre le pire dans ces villes?
Je vais bien préciser, je ne sais pas si vous avez déjà été à Kisangani. Hein.
Allez-y.
Ceux qui ont déjà été à Kisangani, nous disons que la Tchopo, moi qui suis en moindre risque, à Tchopo. Et nous pensons aussi qu'à Mbandaka, nous avons le problème au centre de la ville. Et nous aurons, à Kisangani, nous pensons que Barumbu, jusqu'au même à Kisangani, une bonne partie de Lingala peut avoir des problèmes en ce qui concerne le gonflement du fleuve Congo. Mais cependant, dans des rivières, comme on dit en Lingala, Namiluka bo oya rivière Ndili, Mamuluka bo ya Ndili, Muluka bo ya Makelele, Muluka bo ya oya Nani.
Donc Muluka, vous voulez parler des rivières.
Oui, les rivières en Lingala c'est Muluka.
Muluka, voilà.
Alors, Okobanga, Okosoma, Kasina, Eleko, Ampela, Po, Natina, Batoubaye, Batumbi, Namabele, Amuluka, Bakozana, Okosomonen. Il faut savoir.
Alors, il faut déplacer toutes ces personnes, tous ceux qui habitent dans les communes de Lingala, Kinshasa, Barumbu.
On a déjà été déplacés plusieurs fois. La raison même de l'existence d'un pass à un, pass à deux, vous vous souvenez, au niveau d'Ngiringiri là-bas, au niveau du croisement des avenues Liberté avec Kassavubu. La rivière, la
souveraineté. Mais elles iront où toutes ces personnes?
Elles gonflent et on a déjà déplacé tous ces gens-là.
Mais où est-ce qu'elles vont aller maintenant? Parce que bon, pour l'instant, il n'a pas encore plu. Mais s'il pleut, ça va être terrible, comme vous l'avez souligné.
Mais c'est pourquoi le ministre de Bidas Pembele, qui veut pour le moment le faire d'une façon méthodique, en concertation avec le gouverneur. D'une façon méthodique, comment? Ça devrait être, une fois qu'on a déplacé les gens, on va essayer de dégager toutes ces zones de gonflement naturel des rivières et s'occuper à replanter. On sera sans pitié pour permettre à l'homme de sauver sa vie.
Oui, mais aujourd'hui, il y a une grande question qui se pose. Tous ces habitants qui nous suivent à travers le pays se demandent, mais où est-ce que nous irons? Nous avons conçu à ces endroits, on nous a donné des autorisations de construction. Maintenant, on nous demande de quitter ces lieux par crainte, justement, d'une inondation. Mais on va aller où? C'est ça, madame, la grande question.
Vous permettez, madame, allez-y. Tous ces gens-là, je vous ai donné la raison de l'existence d'un passé. Un passé 1, passé 2, ce sont tous ces gens-là qui, suite à des inondations, ont été déplacés là-bas. Bakeikuna, Baumelite, Batungata Kutungate, Baikekatina Bango, Bazongeli Biseka Baki Kufand. Yangombalo et Kozala Lissuso, na Kenge Makas, Yango Tokoye Bisabango, Bazakana Angele, Tangomei. Pambate Kozala na Kozana Ndenge Moko ya Makas, ok, Kende Yopopa.
Donc, autrement dit, aujourd'hui,
la
population devrait encore se déplacer et aller à Mpasa pour avoir la vie sauve.
Elle était déjà déplacée.
Oui, ingénieur Kayembe, est-ce que le curage des caniveaux de rivières, disons, le curage des rivières ne serait-il pas une solution palliative en attendant?
Oui. C'est une des solutions dans ce sens ici que la plupart de nos rivières sont devenues des poubelles.
Oui, parce que nous avons la rivière de la Gombe. Voilà la rivière de la Gombe.
Un exemple, la rivière Mungulu. Croisement de la rivière sur le pont de l'avenue Kikwite, entre la zone de la commune de Lemba et la commune d'Endaba. Je ne sais pas si vous avez déjà été là-bas.
Tout à fait.
Mais l'eau ne coule plus. Alors, il faudrait évidemment essayer de curer d'urgence. Mais quand on cure d'urgence, il y a le problème de gestion de déchets. On essaie d'être sévère un peu dans ce sens-là. On va curer pour laisser passer l'eau. L'eau dans des quantités normales. Mais n'oubliez pas, ce que nous craignons, c'est quoi? Avec le changement climatique, le changement climatique se traduit, par exemple, par des pluies espacées, mais qui tombent d'une façon diluvienne. Et alors, si par exemple, par jour, nous avons plus, ça arrive, on peut avoir plus de 60 mm d'eau, d'auteur. Mais qu'est-ce que vous allez faire en ce moment-là? Ce n'est pas seulement le tirage qui résout le problème. Dieu, lui, évidemment, Dieu n'était pas à l'université, mais il a fait toutes choses avec perfection. Il a prévu des heures de vagabondage des rivières. Au moment où la rivière gonfle, il y a là des limites que Dieu lui a données. Mais c'est dans ces limites-là que nous avons commis l'imprudence. Il y a des gens qui habitent là-bas. Même. Donc, curer, c'est une des actions, mais dégager les lits et l'air
meilleur. Oui, monsieur Kayembe, éclairons un peu la lanterne de nos auditeurs, parce qu'il y a des rivières, je prends l'exemple de la rivière de la Gombe, disons, les maisons qui sont à plus de 10 mètres, sont-elles également exposées?
Ben non, la rivière de la Bombay, elle coule depuis le camp Lufungula jusqu'au pratiquement derrière
Utex Africa.
Alors, sur toute cette route-là, la rivière de la Bombay ne pose pratiquement pas de problème, mais à partir des petits ponts, vous voyez les petits marques là-bas.
Oui, à hauteur de Utex Africa là-bas.
Eh bien, ces gens-là, ils ne doivent pas habiter ces endroits.
Et alors au niveau de la rivière Ndjili, est-ce qu'on peut aussi craindre le pire pour ses habitants?
Oui, au niveau de la rivière Ndjili, pour le moment avec les travaux de la régie des eaux, nous pensions que ça va s'arranger, mais l'air naturel de gonflement se trouve derrière Matete. Vous voyez, madame, derrière Matete au niveau de Ndjili Brasserie, comme on dit.
Alors qu'est-ce qu'il faut faire côté de Matete là-bas? Qu'est-ce qu'il faut faire concrètement pour prévenir cette catastrophe qui pourrait venir?
Là, nous ne craignons pas tellement parce que tous ces endroits-là sont occupés par des plates-bandes et des gens qui font des maraîchers. Les maraîchers, ce sont des gonflements d'eau qui peuvent faire 2, 3, 4 jours et puis couler, ce qui fait que la production serait un peu endommagée, mais notre crainte n'est pas tellement grande comme le cas de la rivière Kalamo, le cas de la rivière Makelele, le cas de la rivière Mungulu.
Ça, c'est beaucoup très touchant. Et les Bitiapu-Tiapu au niveau de...
Mais la rivière Kalamu à hauteur de Bongolo, ça pose également problème, parce que là, on a vu le pont s'affaisser.
Oui. Là, vous voyez, tous ces gens qui habitent Zambavoka, comme on dit.
Juste alors, une question de curiosité.
Il y a deux avenues qu'on doit détruire de côté de l'autre.
Oui, alors juste une question de curiosité. On en profite puisque vous êtes notre invité. Nous avons appris que le jardin zoologique sera déplacé. Il va aller au parc national de l'Ansélé. Pourquoi avoir pris cette décision maintenant?
Non, madame, ça, ce n'est pas dans mon domaine. Je l'ai appris, je sais. Je serai de l'avis, mais je ne peux pas émettre... un avis avec responsabilité puisque c'est pas dans mon domaine.
Voilà, on va terminer avec vous, Génère Kayembe. Le problème de prévenir les catastrophes naturelles nécessite des gros moyens. Est-ce que le ministère a suffisamment de moyens pour ça?
Vous savez que on appelle toujours la politique de ces moyens. Mm-hmm. Un des grands moyens que nous avons, c'est vous avec votre radio. Un des grands moyens que nous avons, c'est la radio Okapi. Le grand moyen, c'est d'avertir. Tango mama batonyo se bakouye bisaye, keba ici tofandi, poko se kouya. C'est un des grands moyens que nous avons. Avec l'aide de vous, de la radio Okapi, avec les possibilités qu'on va. La première possibilité, c'est compter sur la propre force de chacun qui habite cet endroit-là. Alors, il doit être informé, il doit être averti. Avec vous, nous pensons que ça va aller. Et l'État viendra, et les autres viendront, mais pour le moment, aidez-nous à sensibiliser les gens.
Oui, on ne fait que ça. Oui, mais on ne fait que ça. Mais la question que bon nombre risque de nous poser, c'est celle-ci. Tokokendewa, Pisiko, État Kopé Sabisombongo. Est-ce que l'État va nous donner les moyens pour qu'on se déplace? C'est ça aussi la grande question.
Maman, et qu'est-ce qu'il est? Tous ces gens qui habitent ces endroits-là, c'est pas aujourd'hui qu'ils habitent là-bas. Je vous dis
voilà,
qu'ils sont censés être logés en face à un, face à deux.
On va faire le suivi avec vous, ingénieur Kayembe Vitata. Nous vous encourageons dans cette démarche. Merci d'avoir nous rappelé d'abord que vous êtes directeur des établissements humains et protection de l'environnement au ministère de l'Environnement. Merci d'avoir été des nôtres et à la prochaine.
Merci beaucoup.